Bonsoir, guten Abend, buonasera. Hi, il est 19h01 et vous avez bien raison d'écouter Campus. Tout de suite, vous embarquez à bord du sous-marin européen.
Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Il n'y a pas de toi, l'abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward. Four forward, drift into the right level.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien dans le sous-marin sur Campus, le sous-marin Europe, spécial Europe, puisque, comme vous le savez, à chaque session parlementaire qui se déroule à Strasbourg, un programme soutenu par le Parlement européen qui s'appelle Europhonica est diffusé sur toutes les campus de France de 15h à 16h. Et bah, nous, on aime faire écho à ce programme et on aime avoir les ambassadeurs avec nous. Malheureusement, Martha, qui représente la ville de Pise, ne peut pas être là ce soir. On pense à elle, on lui souhaite un bon rétablissement. Mais Léonie et Chris sont avec nous. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, salut.
Alors, on rappelle que Léonie, tu représentes l'Allemagne avec la ville...
C'est vrai, Osnabrück, c'est ma ville. Ouais, ma ville natale, donc oui.
Et Chris, tu es notre représentant anglais avec la ville de Wigan.
C'est ça, plus précisément du Nord. Ouais, c'est ça.
Bon, on va commencer à faire du régionalisme. C'est allez, c'est parti.
C'est important aussi. Hein.
On parle d'Europe, mais on précise bien. Et Mathieu sera là aussi pour nous accompagner tout au long de l'émission. Une émission qui va faire écho à ce qui s'est dit dans Europhonica. On va parler notamment d'une réforme en cours sur les politiques destinées aux femmes réfugiées, aux femmes qui sont demandeurs d'asile. Et on va aussi parler d'un accord européen sur le tabac.
Un sujet très important. Hein.
Très important pour le nombre de fumeurs qui nous écoutent sur Campus. Ils sont très nombreux. Mais comme d'habitude, on commence par un reportage. Et c'est tout de suite après une jungle.
9h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Mathieu, un reportage qui concernait forcément la manifestation de ce matin.
Oui, aujourd'hui à Angers, comme dans beaucoup d'autres villes, se déroulait la manifestation contre la loi du travail, loi dite El Khomri. Lors de ce rassemblement étaient présentes les organisations syndicales CGT, FO, Sud, FSU, ainsi que les organisations étudiantes UNEF et l'organisation lycéenne UNEL. UNL. C'est donc un cortège d'environ 4500 personnes selon la préfecture, dont plus de la moitié de jeunes et d'étudiants, qui s'est dirigé de la place du ralliement vers le boulevard Foch puis vers le boulevard du Roi René pour enfin revenir à son point de départ. Christophe Hellou, le secrétaire départemental de la FSU, nous explique pourquoi la mobilisation a été aussi forte aujourd'hui.
Manifeste comme l'ensemble des salariés du pays, il me semble, comme l'ensemble des organisations de jeunesse, hein, l'UNEF, l'UNL, comme l'ensemble de la population qui ne supporte pas ce projet de loi El Khomri qui est une ligne rouge qui est là, qui devient insupportable, c'est-à-dire qu'on dégrade nos conditions de travail sans arrêt, on dégrade nos salaires, on dégrade nos conditions de vie, à chaque fois sous le chantage qu'on va faire de l'emploi et que ça va aller mieux. Et bilan des courses, le patronat en profite, les cotisations, les charges sociales diminuent, mais les salaires n'augmentent pas, l'emploi n'augmente pas, on n'a jamais eu autant de chômeurs, ça devient tout simplement inadmissible et je suis très satisfait pour ma part. On est dans une grosse manif, là, une des plus grosses depuis quelques années sur Angers et je pense que ça va continuer, j'espère que ça va généraliser.
Vous appelez à un retrait total de la loi donc ?
On appelle à un retrait total parce que la philosophie générale du texte ne nous va pas et on ne peut pas modifier un texte qui a une philosophie générale qui ne va pas. Nous, la protection des salariés dans un code du travail, c'est pas moins qu'on en réclame, c'est plus. Et un gouvernement qui se dirait de gauche un jour, et ben c'est vers ce plus qu'il devrait tendre.
Une manifestation aux fortes attentes politiques, donc. Jean-Jacques Nicolai, membre du bureau de l'Union départementale CGTFO, nous explique qu'il manifeste avec un seul objectif. C'est
que le gouvernement retire ce projet de loi qui propulse un siècle en arrière les acquis des salariés, donne un blanc-seing pratiquement au patronat, inverse surtout la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que la loi sera celle des entreprises et plus celle du Code du travail. Et donc il retire tout ça, et s'il veut qu'on renégocie, on veut bien renégocier, mais sur la base de son retrait.
Est-ce que vous ne trouvez pas ça dommage qu'il y ait plusieurs manifestations organisées sur le mois ?
Écoutez, les jeunes ont décidé de manifester le 9. Pour ce qui nous concerne, nous avions appelé au 31, je crois qu'ils appellent aussi le 31. Donc nous, il était hors de question que nous nous séparions de la jeunesse, donc nous accompagnons les jeunes.
Les jeunes, ils sont les plus nombreux à être venus manifester. Lisa Briand, militante des jeunes communistes, nous raconte comment s'est déroulée cette mobilisation lycéenne.
Donc moi, je suis responsable de la question lycéenne, donc j'étais là pour mobiliser les lycéens. Donc j'étais avec Chevrolier ce matin, on est parti à 400 de Chevrolier, donc on a vraiment une bonne mobilisation. Au niveau des lycées, il y a Joach qui a été bloqué, personne qui a été bloqué. Donc c'est quand même une bonne mobilisation. Et Renoir aussi qui est venu beaucoup en masse, David Danger, Paul-Émile Victor qui est présent, Mounier qui est présent. Alors du coup, on manifeste pour le retrait total de la loi El Khomri, puisque en gros, c'est faire prévaloir les accords d'entreprise sur la loi, sur le code du travail. En gros, c'est inverser la hiérarchie des normes. Sauf que nous, on est totalement contre ça. Et en fait, c'est l'idée globale de la loi. C'est pour ça qu'on n'est pas pour juste changer deux, trois trucs, mais pour le retrait total de la loi.
Vous trouvez pas ça dommage qu'il y ait plusieurs manifestations organisées sur le mois ?
C'est qu'en fait, les orga-jeunes ont appelé le 9. Les syndicats professionnels nous ont suivis. Mais le 17, c'est encore nous qui appelons encore une fois. On appelle encore plusieurs dates, en fait. Et le but, c'est pas de diviser les luttes, c'est de continuer pour faire une lutte qui grossit de plus en plus, pour faire une vraie logique de mobilisation et pas seulement une manifestation. On se mobilisera jusqu'au retrait total de la loi de toute façon. Donc voilà.
On l'a donc bien compris, les manifestants veulent un retrait total de la loi, cependant quelques propositions sortent du lot. Emmanuel Poupard, secrétaire général du Syndicat national des journalistes, nous en expose une.
Il y a une notion intéressante que 18 juristes spécialistes du Code du travail travaillent sur une contre-proposition, un contre-code du travail qui va justement, au contraire, sécuriser le salarié dans l'entreprise. Et je pense que s'il y a quelque chose à faire, c'est plutôt aller dans le sens de la sécurisation du salarié plutôt que de déréglementer à tout craint. Et je pense que cette initiative des 18 juristes est intéressante.
Alors, Léonie, Chris, vous en avez entendu parler, on imagine, de cette manifestation, non ?
En général, oui, j'ai bien entendu parler de le fait que partout la France, si je ne me trompe pas, il y a des manifestations comme ça. Mais je n'étais pas au courant de l'intensité des manifestations à Angers. On a entendu là que c'était quelques lycées étaient bloqués. C'était impressionnant. Mais je trouve que ce qui m'intéresse, c'est la proportion des étudiants qui manifeste, parce que évidemment le code du travail c'est pas forcément quelque chose qui toucherait directement à ce moment précis les lycéens, c'est plutôt les travailleurs, mais j'imagine c'est parce que c'est la philosophie du nouveau code, l'idée générale du nouveau code qui les dérange évidemment. Mais non, personnellement je n'étais pas au courant. Je savais qu'il y a aller avoir des manifestations à la place du ralliement, mais je n'appréciais pas le nombre de lycéens, en fait.
Ouais. Léonie, toi ?
En fait, notre assistante du service, elle est venue dans le bureau et elle était comme ça. Est-ce que vous voulez faire la grève ? Donc, elle nous a demandé si on veut le faire. Je suis comme ça. Je ne sais pas, en fait. Donc, pourquoi pas ? Mais je veux dire, je travaille ici pour une année, donc je n'ai pas forcément vraiment quelque chose à dire. Donc, mais je trouve que c'est impressionnant combien de personnes, en fait, ont vraiment participé. Et, parce qu'en Allemagne, s'il y a manifestation, bien sûr, ce sont des personnes qui sont vraiment touchées et tout ça. Mais comme tu as dit, des étudiants, c'est impressionnant parce que, je veux dire, en Allemagne, il y avait des grèves aussi pour vraiment des lois spécifiques aussi pour les systèmes scolaires et tout ça, mais en fait, moi, je me souviens, moi, je ne suis pas y aller. Je dis juste que je fais la grève, mais j'étais à la maison. Donc, c'est ici, c'est, je trouve que c'est une façon très, très française. C'est très bien.
Il y a autre chose hein, qui, personnellement, m'a impressionné, c'est quand j'ai passé quelques coups de fil pour avoir les chiffres, les estimations. Les organisations syndicales ont avancé des chiffres aux alentours de 4000 et c'est la première fois de ma vie que la préfecture avec les autorités ont annoncé un chiffre plus haut, à savoir 4500. Ça arrive quand même franchement pas souvent et fallait le souligner. On revient juste après un titre en italien. Marta, si tu nous écoutes, excuse-moi d'avance pour l'accent. On fera un tour de table de vos projets, mais d'abord Non me lo posso permettere, un titre de Caparezza.
Je pense que les R est roulé, donc ça va.
Bon, allez, vous m'en voulez pas. Et Martha, bah, on espère que t'apprécieras.
Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
Perché?
Perché non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. Come donna ho peli sulle gambe e le braccia e non me li posso permettere. Quando supero gli anta metto su panza, lascio i capelli sul pettine. Vorrei provarci con te ma ho la faccia da rettile. Non me lo posso permettere.
Pensioni come i senatori,
non me le posso permettere.
Stasera niente cena fuori,
non me la posso permettere. E tra l'altro qui passano i mesi ma non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no, no! Non me lo posso permettere, chiedi lumi tu, l'unitus, sarai l'osso per Ettore. Credo nell'onestà, la disillusione, non me la posso permettere. Ma la bici l'attacco, quattro catene, troverò un posto per metterle.
Scordare la tua e poi fare del sesso,
non me lo posso permettere.
Sbagliare la curva e ti fare lo stesso,
non me lo posso permettere. Vorrei buttarmi in un'impresa come un opossum nel nettare. Finisce che invece mi butto di sotto ed è meglio di no. Non me lo posso permettere.
Vous êtes toujours dans le sous-marin spécial Europe sur le 103 FM de Campus. Et on est toujours avec les ambassadeurs Léonie, Chris et Martha est toujours absente. Hein. On rappelle qu'elle est malade. Ça n'empêche qu'on va faire un tour de table de vos projets. Et Léonie, je crois que tu vas parler pour Martha aussi en plus.
Oui, je vais lire un petit texte qu'elle m'a écrit tout à l'heure au bureau. Donc c'est pas, elle va parler, donc je vais parler pour elle. Ça, c'est pas mal aussi.
Très bien. Eh ben, écoute, à toi l'honneur. Ou à Martha l'honneur.
Bah, je pensais plutôt à Martha parce que j'ai directement le texte devant moi, donc c'est plus facile. Donc je vais le lire. Donc si je fais des fautes, je m'excuse déjà.
C'est Martha, c'est ça.
Donc les projets de Pise. Donc dimanche et lundi, en fait, elle a accueilli deux maîtres brasseurs de la guide, donc guide des nains brasseurs de Pise, en fait. Donc c'est italien, je ne peux pas le prononcer, en fait. Mais pour un premier échange avec la brasserie Angevine, une nouvelle entreprise qui va bientôt proposer ses bières aux Angevins. Et bah, en fait, les deux brasseries, ils aimeraient bien bah, créer ensemble une bière. Donc, c'est quelque chose assez bien, je trouve aussi. Donc, c'est, bah, ça va être la bière Angevine Pise. Donc, c'est quelque chose assez bien. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'elle a fait, en fait, toute la semaine avant aussi. Elle a eu plein de rendez-vous et elle est très chargée. Donc,
c'est pour ça qu'elle est malade, en fait. Elle a essayé beaucoup trop de bière.
Oui, bah, je pense qu'elle a trop goûté, hein, c'est sûr. Elle n'est pas habituée. Hein,
c'est clair, maintenant. Ouais.
Oui, oui. Non, et sinon, bah, je pense qu'elle a... Qu'est-ce qu'elle a fait ? Sinon, elle a fait des interventions avec nous ensemble. Donc, on a tous fait des interventions. Et bah, sinon, je pense qu'elle a traduit. Donc, comme moi, en fait. Donc, moi, je fais des interventions pas mal la semaine dernière, en fait, dans les écoles pour sensibiliser des jeunes à partir en Allemagne ou de vraiment d'être passionnés pour l'allemand parce que c'est, comme je dis, c'est très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui disent que l'allemand, c'est très dur. Et, mais ce n'est pas du tout comme ça. Donc, j'essaie de le faire comprendre, en fait. Et sinon, j'ai fait une traduction pour un choral ici à Angers, parce qu'il y avait un article pour eux, et donc j'ai eu 3 I's. Et après, je fais des interventions dans des TAP, donc dans des temps après périscolaires. Donc je fais un petit animba. J'étais une animatrice, c'était pas mal aussi, c'était cool. Et sinon, en fait, j'ai essayé de faire le Earth Hour ou de planifier avec ma responsable Earth Hour ici à Angers, donc ça serait la semaine prochaine. Donc en fait, toute la vie va arrêter les lumières pendant une heure. Et c'est quelque chose assez bien, oui. Osnabrück va le faire aussi, donc c'est un bon projet, c'est quelque chose assez bien. Oui, c'est une bonne pub aussi, parce que, je veux dire, c'est quelque chose d'écologique et tout le monde doit vraiment faire quelque chose pour ça, parce que ça nous touche tout. Donc, et sinon, c'était plus administratif, donc répondre aux mails et chercher, corriger des CV, des lettres de motivation et tout ça. Donc,
pas mal de demandes de stagiaires.
C'est pas mal. Et pour des échanges aussi.
Ça commence à être l'époque des demandes de stage.
C'est ça. C'est différent ici, en France aussi. En France, vous avez vraiment besoin de faire des stages. Je n'ai jamais su ça. Donc, ici, je remarque, c'est vraiment la pression pour les étudiants, en fait.
C'est sûr qu'on n'a pas le principe de l'alternance et de pouvoir vraiment être dans une entreprise. Il faut effectivement faire des stages.
C'est obligatoire, en fait, on me dit.
Pour avoir une licence et tout ça.
Oui, effectivement, dans plusieurs licences et dans plusieurs licences, master, il faut faire des stages obligatoires.
C'est quasi obligatoire.
Et ça dépend des années. Généralement, c'est sur la 3e année de licence, mais ça peut arriver sur une 2e année d'avoir un stage en général d'une durée un peu moins longue, mais qui est obligatoire aussi.
D'accord.
Ah oui,
d'accord.
Mais c'est beaucoup de pression, en fait.
Oui.
Parce que si on ne trouve pas un stage, je vais dire, après, tu n'as pas la licence, ce serait dommage.
Et c'est pour ça que je suis en train de travailler sur un projet de réseau de job d'été stage entre Angers et Wiquin. Parce que je reçois beaucoup, beaucoup de demandes d'Angevin pour des stages à Wiquin, aux alentours de Wiquin. Donc, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de parler aux entreprises angevines, wiquinais, des universités, des écoles, pour vraiment créer un système plus efficace et un système dans lequel on peut travailler ensemble pour faciliter ce demande de stagiaires. Donc je travaille sur ça aussi. J'ai 2 projets un peu musicaux. C'est pas si vous avez entendu parler de je sais que tu as déjà, mais
du groupe on travaille ensemble dans le même bureau,
c'est le Blind Sons, le groupe, c'est un groupe angevin qui va aller à Osnabrück pendant
le Ben on a Maivre, en fait c'est le plus grand événement à Osnabrück, en fait c'est comme les accroche-cœurs, mais c'est en mai.
Mais c'est un groupe angevin qui veut faire des concerts en Angleterre et qui veut en faire un à Wigan. On est en train d'essayer de on est en train de parler avec le groupe pour essayer d'organiser leur séjour, etc. Et aussi un fait qui est connu partout le monde, c'est un fait international de jazz à Wigan. Donc on essaye aussi en ce moment à trouver un groupe ou un artiste de jazz qu'on peut placer dans ces festivals. Et aussi quelque chose qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de faire une sorte de conférence culinaire entre les villes jumelles. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des interlocuteurs des différentes villes pour présenter un produit de nos villes.
Très, très intéressant. Et merci. En plus, pour les Blind Suns, ils sont quand même relativement connus des auditeurs de campus. Ils sont venus dans ce studio pas mal de fois.
Intéressant,
donc, très intéressant de savoir qu'ils s'exportent dans vos deux villes.
Ah oui, souvent en fait, souvent. Donc, c'est pas mal.
Oh, c'est bien, oui. Le travail marche.
Oui, c'est vrai.
Eh ben, on va parler maintenant du travail qu'ont fait les eurodéputés aujourd'hui et hier.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et on commence avec le premier sujet d'actu qui a été traité hier au Parlement européen. Ça parle des femmes qui sont réfugiées, qui sont demandeurs d'asile. Alors oui, on peut regretter qu'on parle de ça au Parlement européen seulement pour la journée internationale de la femme. Ça fait un peu machisme ordinaire. Mais toujours est-il qu'une réforme des politiques et procédures européennes de migration et d'asile, en fait, doit inclure, c'est ce que demandent les députés qui ont adopté la résolution hier, donc il demande d'inclure des mesures tenant compte du genre afin de garantir la sécurité des femmes qui demandent l'asile. Amnesty International a sorti un rapport, c'était le 18 janvier dernier, et il s'était basé sur des études faites notamment en Allemagne, mais aussi en Norvège. Ils sont allés voir plusieurs femmes qui témoignaient de choses plutôt atroces, à savoir déjà les conditions dans lesquelles elles ont dû quitter leur pays. Souvent ça passe par la prostitution, malheureusement, pour pouvoir payer les passeurs. Et derrière, les conditions d'accueil, qui sont franchement pas géniales non plus. Pour rappeler un peu le cadre, il y a une mixité totale, à savoir dans les dortoirs, dans les douches. Donc forcément, souvent, on entend parler de violence, d'attouchement, etc., etc. Malheureusement, on peut continuer. Et dans le rapport d'Amnesty International, on parle, elles parlent aussi, ces femmes, d'insultes et du fait d'avoir été frappées par les forces de l'ordre en Grèce, en Hongrie et en Slovénie. C'est assez choquant. On fallait en parler. Votre avis, je ne sais pas qui veut y aller. Chris,
ouais, je veux commencer. Comme je te disais tout à l'heure, ce qui j'ai trouvé intéressant, c'est que je n'ai pas réussi à trouver beaucoup d'articles à ce sujet dans les journaux, mais évidemment, j'ai fait quelques recherches et je ne me suis pas rendu compte qu'il y a ce problème pour les femmes spécifiquement. Mais en fait, plus on lit sur le sujet, plus on se rend compte qu'il faut peut-être prioriser les femmes si on peut. Des choses très 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 simple mais pratique quand tu as dit là, quand tu dis que les dortoirs, tout le monde est ensemble, c'est-à-dire tous les sexes, ça c'est un problème qu'on peut résoudre assez facilement, c'est-à-dire simplement avoir deux lieux différents. Mais c'est choquant, c'est vraiment choquant quand on lit l'histoire, le traitement. Donc en effet, mon avis, ouais, après avoir lu un petit peu du sujet, il faut prioriser les femmes, évidemment, parce que même si on veut être aussi égal que possible, c'est clair qu'il y a des problèmes qui touchent uniquement les femmes au niveau de l'intégration, le traitement des femmes dans ces cas.
Il y a autre chose, Léonie, je me tourne vers toi, tu es particulièrement concernée. Tout à l'heure, dans l'émission Europhonica, on entendait des députés dire « Bah oui, mais évidemment qu'il faut faire quelque chose de particulier, et notamment sensibiliser les femmes qui arrivent des pays souvent qui, en fait, n'ont pas de planning familial, qui n'ont pas de protection en tout genre, et oui, où on n'a pas le droit d'avorter. Toi, comment tu le sens quand t'entends justement ce rapport avec les femmes qui sont en Allemagne réfugiées là-bas ?
Bah, je trouve vraiment on doit vraiment faire quelque chose, parce qu'on parle toujours, en Allemagne, je veux dire, c'est un grand sujet, parce qu'on a énormément des immigrants, c'est sûr. Et Angela Merkel a beaucoup, en ce moment, elle a beaucoup de mal parce qu'elle peut rien faire du bien en ce moment, en fait. Mais on parle toujours, en fait, des immigrants en général. On parle pas, j'ai le même problème que Chris, on parle pas trop des femmes en général, on parle toujours des immigrants en général. Oui. Mais comme tu as dit tout à l'heure, en fait, c'est un grand problème parce que, je veux dire, ils viennent de la prostitution, ils ont jamais, je veux dire, peut-être, ils ont déjà des enfants, ils ont laissé leurs enfants dans leur pays, ils ont vraiment du mal et aussi... ils savent pas vraiment, je veux dire, comment c'est ici, en fait, parce que c'est un autre monde. Peut-être qu'ils ont jamais, ils portent un foulard ou, je veux dire, ils ont une autre vue, peut-être, sur des choses. Et je trouve vraiment qu'on doit vraiment faire des choses ou les protéger un petit peu aussi, parce que, je veux dire, ça sent des autres mondes quelquefois aussi. Et je pense que c'est dur, c'est vraiment dur. Donc, tu as totalement, je trouve, vous avez vraiment totalement raison. Il faut vraiment faire quelque chose pour ça. Il y a aussi peut-être des cours, peut-être montrer aussi, je veux dire, comment à l'école, des cours de sexualité, je sais pas, mais pour vraiment montrer comment c'est et pour les protéger, pour... qu'il n'y a pas des choses qui vont arriver, je veux dire, c'est, je sais pas comment expliquer, mais il faut vraiment faire quelque chose. Et je trouve il faut aussi parler des femmes. Donc par exemple, maintenant il y avait la journée de la femme, mais c'était plutôt, par exemple, Joachim Gauck, notre président, c'est pas Angela Merkel, c'est la chancelière, donc notre président du pays. Il a donné des honneurs, donc il a donné des prix aux femmes qui se sont bien engagées pour les immigrants et pour les choses en général. Mais c'était plutôt pour faire la pub, pour montrer qu'on est bien, on respecte les femmes, blablabla. Mais en fait, presque dans pas un pays, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Oui. Donc, c'est pas juste les femmes qui sont immigrées parce qu'ils s'en sont fuies de la politique ou parce qu'ils sont, je veux dire, pas maltraitées. C'est dans tous les pays, on gagne moins d'argent, on n'a pas les mêmes droits. Et il faut vraiment faire quelque chose pour ça, parce que c'est pas juste des immigrants qui ont des problèmes, c'est toutes les femmes en général. Et aussi dans les autres pays, je veux dire, ici, les femmes sont déjà venues ici, mais les femmes qui sont encore dans les pays où ça va pas vraiment bien, je veux dire, avec les ISIS par exemple, ils sont hyper maltraités. C'est pas quelque chose qui est bien. Il faut vraiment travailler sur ça et pas juste penser à l'argent et comment on va le faire. Il faut vraiment, vraiment aider. Et il faut commencer aussi... dans la société, parce que je veux dire, aussi dans notre monde, on pense toujours que on est très moderne et tout ça, mais en général, je gagne pas, je veux dire, maintenant je gagne le même salaire, mais plus tard je gagnerai pas le même salaire qu'un homme. Donc je trouve je pourrais pas vraiment travailler dans la science, parce que si un jour j'ai un enfant, après c'est fini, hein. Et c'est quelque chose qu'on devrait changer. Donc ouais.
Ouais, c'est ce qui est assez incroyable, c'est que à chaque fois, il faut qu'il y ait une journée européenne, une journée internationale, ouais, pour parler des conditions des femmes. Je sais pas, en tout cas, vous le disiez, qu'il y a pas tellement d'informations sur le sujet, ni en Angleterre ni en Allemagne, mais en France non plus. Moi, en fouillant, j'ai trouvé un seul article de Libération qui date de janvier dernier, au moment où Amnesty International a sorti le sujet. Et ça veut dire que finalement, on ne parle pas assez de la condition des femmes de manière générale, oui, tout au long de l'année.
Et je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire une journée des femmes? Donc tu veux dire tous les autres jours c'est pour les hommes, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est cool. Non, c'est vraiment ça, parce que c'est la journée de la femme, mais c'est juste une journée, ça suffit pas. Il faut vraiment travailler dessus, c'est toute l'année. Donc une fois par semaine, je sais pas, vraiment tout le temps en fait. Et une journée, ça suffit pas. C'est pas assez. Il faut vraiment faire la pub, il faut vraiment parler tout le temps, en fait. Et ça, je sais pas comment dire ça, mais pas juste une journée. Parce que maintenant, c'est juste la pub.
Chris, en Angleterre, c'est pareil. Il y a une énorme différence de salaire, par exemple, entre les femmes et les hommes.
C'est vrai. Oui, dans certaines entreprises, par exemple, il y a des hyper grandes entreprises à Londres, et entendre parler tout le temps d'un, comment dire en français, d'un responsable de l'entreprise entière qui a un salaire complètement différent à un employé féminin. Donc oui, ça c'est un problème. Et aussi, on avait, je ne sais pas si c'est le cas maintenant, mais il existe l'harcèlement, je l'ai vu moi-même en fait, l'harcèlement des femmes dans les lieux de travail, ce qui est vraiment choquant quand on le voit comme ça. Et ma mère me raconte des histoires qui sont vraiment choquantes, qui sont Donc oui, oui, ça existe. Et c'est quelque chose dont on parle au Royaume-Uni en général. Il y a des lois qui essaient de protéger contre la discrimination, mais il y a toujours des façons que l'employeur peut utiliser pour éviter ce sujet, des loopholes, c'est-à-dire des aspects de loi qu'on peut manipuler pour ça. Mais c'est vrai, il y a des différences de salaire, évidemment, en Angleterre.
Avant de faire un tour de l'actualité, de ce qui se passe dans vos pays, on va écouter une chanson que tu as choisie. Chris, tu vas nous en parler, nous la présenter.
Oui, avec plaisir. Je l'ai simplement choisie parce que c'est une de mes chansons préférées. C'est un artiste qui s'appelle David Gray. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Assez célèbre en Angleterre. Et je pense que vous allez reconnaître la mélodie.
Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind. I've been a fool to open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your to show you how I really feel, admit to some of those bad mistakes I've made. Well, if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in.
David Gray avec le titre Babylone, c'est ça, je me trompe pas, Chris?
Non, c'est une bonne prononciation, ouais.
Et évidemment, c'est dans le sous-marin spécial Europe sur campus. On va faire un tour de l'actu, de ce qui s'est passé dans vos pays. Qui veut commencer? Léonie, peut-être?
Ouais, allez, je peux commencer en Allemagne. Donc, en Allemagne, c'était, je veux dire, on parle beaucoup des immigrants, c'est sûr. Mais en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas assez drôle, mais ce qui a été un peu plus différent. Parce qu'en fait, un politicien de la partie verte, donc de la partie écologique, il a fait toujours une politique assez libérale contre la drogue. Il a dit toujours il faut légaliser le cannabis et tout ça. Mais en fait, il, maintenant, son nom, c'est Victor Volker Beck. Et en fait, il s'est attrapé par la police avec du crystal meth. Et oui, c'est lui,
on a vu passer.
Oui, oui, donc c'est quelque chose de parler parce que maintenant, il a quitté tous ses pouvoirs et il a un petit peu des problèmes. Et maintenant, en fait, c'est encore le sujet. Qu'est-ce qu'on fait avec la drogue? Par exemple, les morts en Allemagne avec la drogue, c'est augmenté maintenant aussi. Donc, il parle beaucoup de ça aussi. Donc, c'était quelque chose qui était assez drôle. Et la deuxième chose, c'était que notre ministre de la Défense, Ursula von der Leyen, en fait, c'est, je ne sais pas si vous connaissez... notre ministre, c'est une femme, donc c'est pas mal. Donc, mais en fait, les journalistes essayent toujours de chercher des trucs dans des, comment on dit, dans des titres des docteurs, dans des thèses de docteurs. Ils essayent toujours en fait de trouver quelque chose qui est pas bien. Et là, en fait, ils ont pensé que ils ont trouvé des plagiats. Donc, ils ont vraiment cherché, et aussi l'université de Hanovre, ils ont cherché vraiment, en fait, de la détruire, de trouver quelque chose qui est énorme, qui ne marche pas et tout ça, pour vraiment la virer, parce que c'est une femme, c'est une politicien, il ne peut jamais faire quelque chose bien. Donc, mais ils n'ont rien trouvé. Donc, maintenant, elle est assez tranquille, c'est pas mal. Donc,
D'accord.
Et Chris,
oui,
au Royaume-Uni.
Au Royaume-Uni, il y a... un article qui m'a étonné un petit peu à propos de la consommation de l'alcool au Royaume-Uni. Parce qu'il y a bien ce stéréotype que les Anglais en particulier...
Binge drinking,
oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tous les week-ends, vendredi soir, samedi soir, on picole.
Et puis on picole rapidement.
Rapidement aussi. Ça, c'est clair, en fait. Oui, merci d'avoir précisé ça. Donc, il y a eu un article. Des chiffres ont été, comment dire, sortis la semaine dernière. Donc, il y a 2,5 millions d'Anglais qui dépassent la limite hebdomadaire de consommation d'alcool en un jour.
Ah oui,
ce que je trouve personnellement énorme. Donc c'est clair que voilà des statistiques qui soutiennent l'idée que les Anglais...
Non, c'est pas un stéréotype en fait.
C'est
juste la vérité.
Faut rappeler combien d'habitants il y a quand même.
Ouais, faut donner le contexte. Voilà. C'est, voilà. Royaume-Uni, en Angleterre, il y a à peu près 60 millions. Donc 2,5 millions dépassent la limite hebdomadaire de consommation en un jour.
Et tu le fais aussi?
Non, pas trop.
Non, t'es pas vraiment une vraie anglaise.
On est exception à la règle.
Oui, bien sûr.
Mais j'ai décidé de parler de ça parce que je pense que c'est intéressant, parce que ça provoque un peu le débat. Parce que, évidemment, quand je sors le soir à Angers, vous n'avez pas de tout ce problème. Et c'est complètement différent en Angleterre. En fait, j'ai honte de ça. Je peux l'avouer. La culture est différente, mais voilà des statistiques, qui soutiennent cette idée que les Anglais binge drink, c'est énorme.
Et grâce à ce que tu viens de dire, on n'a même pas besoin de rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
C'est vrai.
Très bien, l'article le fait à notre place. Ouais.
9h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et après avoir parlé d'alcool, quoi de plus normal que de parler de tabac? Eh oui, forcément.
Très dangereux aussi. Hein.
Bah oui, quand on boit un verre, on aime bien en général fumer une cigarette. Mmh. Et bien aujourd'hui même, les députés ont adopté une résolution qui demande à la Commission européenne de renouveler l'accord anti-trafic avec Philip Morris International, un accord qui doit expirer en 2016. À la place, l'UE doit utiliser ses outils législatifs pour lutter contre la contrebande. Je vous rappelle le contexte. Alors attention, accrochez-vous, c'est un texte qui vient directement du site du Parlement européen. C'est pas forcément très lisible comme ça, mais on va essayer de le faire quand même. En fait, il y a des accords qui ont été conclus avec différents fabricants, Philip Morris International, Japan Tobacco, British American Tobacco, Imperial Tobacco, de 2004 à 2010. Et ces entreprises avaient accepté de verser 2,15 milliards de dollars à l'Union européenne et à ses États membres pour que ces derniers mettent fin à leur procédure judiciaire visant à récupérer les droits de douane perdus à cause du trafic. Les cigarettiers s'étaient d'ailleurs engagés à empêcher que leurs produits ne tombent aux mains de criminels en ne produisant que les quantités absorbées par le marché légal et en ne vendant leurs produits qu'à des clients légitimes et en mettant en place un système de traçabilité pour aider les autorités à combattre le trafic. Je me pose la question, où en est déjà la législation dans vos pays? Est-ce qu'on a le droit de fumer? Où, quand, comment, en Allemagne et au Royaume-Uni? Chris.
Oui, c'était assez récent qu'on a eu de la nouvelle législation. Donc je pense qu'il y a 5 ans, il y avait une loi qui dit effectivement qu'on ne peut pas fumer dans ce qu'on appelle les lieux de convivialité, c'est-à-dire dans les restaurants, dans les bars. Et, mais oui, en général, on ne peut pas fumer dans les bars, même devant les bars, dans un certain lieu. Mais j'avais envie de parler d'un truc que j'ai recherché à propos de du tabac. Et c'est quelque chose que j'ai étudié aussi quand je faisais ma licence. Ce qui est intéressant, que il y avait des réglementations qui dit que un certain pourcentage de l'emballage des paquets de cigarettes doivent contenir des avertissements et tout ça. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ces réglementations ont même bénéficié, ont même profité les fabricants de tabac, parce que les ventes, c'est-à-dire ils ont continué à vendre la même quantité de cigarettes, mais en même temps le frais, le coût, comment dire, de l'emballage,
de packaging, on dit
packaging, ça se dit aussi, oui, ça m'aide. Les frais pour ça étaient moins. Donc en fait, même si on essaie de réglementer l'industrie, ça peut aider les entreprises de tabac, ce que j'ai trouvé très très intéressant.
Bah, il faut toujours soutenir les fumeurs, hein. C'est
énorme. Il y en a moins en Angleterre, je crois.
Tu penses? Ouais. Bah, en France, c'est énorme.
C'est énorme. Et en Allemagne, il y en a beaucoup. Et est-ce qu'on a le droit de fumer encore partout ou...
Bah, en fait, ça dépend, parce que tu sais, l'Allemagne, c'est divisé dans les différentes régions. Donc, chaque région, en fait, a sa propre gouvernement et cette gouvernement choisit qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, par exemple, ma région, c'est pas Saxe, c'est dans le nord-ouest, donc c'est vraiment dans le nord. Et en fait, ça, c'est une région qui a été assez pro-protection des non-fumeurs. Donc, ils ont vraiment vite commencé de faire des règlements et des choses comme ça. Donc, dans le sud de l'Allemagne, c'est beaucoup plus encore qui peut former, en fait, partout. C'est comme en Autriche. Mais quand même, dans le nord, je trouve que c'est beaucoup moins strict qu'ici en France. Par exemple, si on jette une clope par terre, en fait, on paye 20 euros, c'est ça? 20 euros, si on jette une clope.
68.
68?
Oui, oui. En théorie, oui, c'est 68 euros à Angers.
Ah oui, je pensais 20 euros, ça va encore, mais 68, ah non, c'est, bon, la main, ça coûte rien. Et aussi, les paquets des clopes sont beaucoup moins chers qu'ici. Et je pense vers 1 euro. Ouais, bah, 1 euro. Et sinon, on peut fumer, bien sûr, pas dans les restaurants. Bah, ça a commencé bien, tu vois, il y a 10 ans, on pouvait encore fumer dans les restaurants et dans les écoles et partout. En fait, par exemple, ma mère, elle est professeure. Il y avait toujours une petite salle pour les professeurs pour qui fumaient. Donc, c'était totalement normal. Ça a arrêté il y a 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Et maintenant, on ne peut plus fumer dans les restaurants, dans les écoles, dans les bus et tout ça. Mais quand même, il y a des règles. Donc, je veux dire, si c'est juste un restaurant avec une salle et c'est assez petit, on a encore le droit de fumer dedans. Mais s'il n'y a pas des mineurs qui peuvent rentrer. Donc, par exemple, dans les discothèques à Osnabrück, par exemple, il y a des discothèques où on peut facilement fumer dedans. Il n'y a personne qui dit quelque chose. Et presque dans tous les bars, on peut fumer aussi. Donc, ce n'est pas super strict. Hein. C'est très, très cool.
Alors là, cette loi, cette proposition, en tout cas cette résolution, parle surtout, à mon sens, quand on parle des droits de douane, etc., on parle en fait de la contrebande de cigarettes dans des pays où, je prends l'exemple du Royaume-Uni pour y avoir été, où c'est extrêmement cher d'acheter des cigarettes dans un bureau de tabac. Mais j'imagine, et je le sais d'ailleurs, qu'on peut trouver assez facilement des cigarettes de contrebande, notamment à Londres, on peut en trouver partout dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que, justement, ce que je viens de dire est vrai, déjà, Chris? Et comment on pourrait imaginer, je ne sais pas, lutter contre ça ou uniformiser ça de manière européenne?
Je pense que la seule raison de lutter contre ça serait de réduire le prix des cigarettes. Mais pratiquement, ça va être très difficile à implémenter. Mais je n'étais même pas au courant de la situation de contrebande en ce qui concerne le tabac. Donc j'imagine qu'il y a des soucis à propos de ça, la qualité de la drogue, etc. Mais je pense pas qu'on va pouvoir résoudre ça très facilement, parce que la seule raison pour laquelle on achèterait le vrai produit au lieu du contrebande, ça serait le prix, évidemment. Et quand est-ce qu'on va dire ça avec toutes les réglementations? Je crois pas que ce soit possible, malheureusement.
Léonie, en Allemagne, tu nous disais que les paquets de cigarettes étaient beaucoup moins chers qu'en France.
Oui.
Est-ce qu'on trouve aussi de la contrebande? Est-ce que c'est facile de trouver des paquets encore moins chers et contrefaits?
Oui, parce que, en fait, il y a on peut acheter les paquets des clubs, pas vraiment dans les magasins de tabac, c'est plutôt dans les kiosques et après dans les supermarchés. Donc dans les grands, ou dans les, je veux dire, pour l'essence, pour les machines à l'essence, pour les voitures, en fait, là, on achète les paquets. Et là, ça sont du prix vers 5,10€. Donc c'est 1€ moins cher, mais si on achète beaucoup des paquets, après, ça change beaucoup. Mais il y a des discounters, donc comme Lidl, par exemple, qui vendent des propres marques. Comme ça, c'est beaucoup moins cher. Donc il y a beaucoup de personnes qui fument des marques, des discounters, donc des supermarchés un peu moins chers. Et comme ça, ils payent peut-être 4,60€. Comme ça, c'est beaucoup moins cher. Et sinon, ils roulent. c'est juste ça, c'est encore beaucoup moins cher aussi. Mais je pense, comme Chris a dit, je pense que c'est très difficile de réduire tout ça parce que, je dis, on voit en France, hein, c'est beaucoup plus cher qu'encore, mais il y a beaucoup plus de personnes qui fument qu'en Allemagne. Et pourtant, vous avez partout des petites images sur les paquets. Et, ça, on n'a pas en Allemagne. Et je veux dire, on fait même la pub dans les cinémas encore.
Justement, est-ce que ce ne serait pas une solution de tout uniformiser au niveau européen, au niveau des publicités, des prix, de l'affichage sur les paquets de cigarettes? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Peut-être que ça va en moyenne réduire le prix. Je pense qu'en fait, oui, je n'avais pas pensé à ça. Mais si c'était pareil, et il n'y avait pas des prix différents, ça va évidemment décourager les gens de chercher ailleurs pour des contrebandes, oui.
Je pense aussi parce que si c'est tout pareil, en fait, c'est plus juste. Parce que en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui vont en Espagne ou en Pologne pour acheter des paquets moins chers aussi pour les copains. Et comme ça, ils achètent beaucoup plus et ils n'arrêtent pas de fumer, je veux dire. Mais par exemple, une amie à moi, elle est en Australie en ce moment et elle a fumé avant. Et en Australie, c'est vraiment, on ne peut pas payer ça, c'est vraiment trop, trop cher. Donc en fait, elle a arrêté parce qu'elle a dit qu'elle ne peut pas financer ça. Et peut-être si on augmente encore beaucoup plus le prix, je veux dire, en général. Donc s'il n'y a pas des exceptions et tout ça, peut-être on va réussir de... Surtout pour les étudiants qui ils vont peut-être commencer plus tard avec
Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, hein? Moi, je vais donner un témoignage de quelqu'un dont je tairai le nom, mais qui est en Australie. Il me disait tel quel: le tabac est tellement cher en Australie que on arrête d'acheter du tabac, on prend directement du cannabis, de l'herbe, et on fume pur.
Donc, c'est vrai aussi.
Est-ce que c'est la meilleure des solutions? La question reste en suspens. On va faire une dernière pause musicale. Léonie, c'est toi qui as choisi le titre. Tu peux nous en dire un mot?
Oui, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose. Donc, j'ai demandé à ma petite sœur et elle écoute beaucoup le gangster rap. Donc, en fait, c'est le Deutsch rap. Donc, c'est le rap allemand, le rap allemand. Mais là, elle m'a donné une chanson et je trouve que c'était assez bien parce que la voix est vraiment jolie et donc je pense que c'est une bonne idée. Donc c'est Barfuss am Klavier de Anne-Mai, je ne sais même pas le nom en fait, Anne-Mai Kantereit.
Und ich sitze schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Du und ich, wir waren wunderlich. Nicht für mich, für die, die es störte, wenn man uns nachts hörte. Ich hab mit dir gemeinsam einsam rumgesessen und geschwiegen, Ich erinnere mich am besten ans gemeinsam einsam liegen jeden Morgen. Danach bei dir, du nackt im Bett und ich barfuß am Klavier. Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Und du und ich, es ging so nicht. Du wolltest alles wissen und das hat mich vertrieben. Eigentlich dich, du bist nicht länger geblieben bei mir. Und so sitz ich, um zu lieben, lieber barfuß am Klavier. Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Und ich, wir waren zu wenig. Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier und träum dabei von dir. Ich träum dabei von dir. Ich träum dabei von dir. Und träum dabei von dir.
De retour dans le sous-marin européen, évidemment ça se passe sur campus et Florent nous a rejoint dans le studio, derrière forcément c'est ta gueule Coubertin. Bonsoir Florent.
Salut Pierre-Louis.
Alors qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir?
Alors ce soir on va parler de la famille Vastine, de Maria Sharapova, de Canoë et on a l'honneur de recevoir Brito de Souza, le président de l'UFAB. Voilà.
Léonie, tu nous as dit que Sharapova, ça t'avait attristé cette
nouvelle. Ah oui, ça m'a touchée parce que j'adore le tennis. Et en fait, j'ai vraiment bien aimé Sharapova parce que, je veux dire, elle est jolie, elle est cool, elle a bien gagné et tout ça, elle s'est bien fait. Et après, on a découvert qu'elle a fait du doping, c'est chiant. Hein. C'est vraiment, c'est, oui, vraiment la mentalité du sport, c'est dommage.
Et tu n'es pas la seule à trister, hein. Isabelle nous fait des signes en régie qu'elle a pleuré toute la nuit hier quand elle a entendu l'information. Florent, avant de te laisser repartir et de te préparer, tu vas être obligé de nous livrer ton pronostic pour ce soir, le match qui excite à peu près tous les fans de foot. PSG-Chelsea, match retour, il y avait 2-1 à l'aller, ça se passait au Parc, on le rappelle. Alors comment tu le sens?
Moi, je voulais déjà revenir sur le PSG rapidement dans une émission Ta gueule Coubertin. Pierre-Louis, tu nous avais dit que le PSG n'allait pas perdre cette saison. Bon, il y a 2 semaines, ils ont perdu déjà.
Effectivement.
Lyon, voilà, je voulais juste revenir rapidement là-dessus, puisqu'on parlait du PSG, tu me lances, je trouve ça sympa. Après, pour ce soir, moi, je vois bien un match nul. Donc, Paris va passer un partout.
Paris va passer un partout. On a un Anglais, on est un peu obligé de te demander, Chris. Toi qui es de Wigan. Wigan, c'est en première division. Hein.
Non,
c'est
en fait, troisième division maintenant.
Oh là là là.
Ouais, il y a pas mal. Ouais, mais en fait, je suis fan de Newcastle. Ne me demande pas pourquoi.
Ah, bah, c'est compliqué aussi.
L'entraîneur va peut-être être viré aujourd'hui. Oui. On va voir. mais oui, je pense que j'aimerais bien pouvoir dire que je pense que Chelsea va gagner, mais non, je pense que Paris va gagner ce soir.
Bon, et ben tout le monde est pour Paris, peut-être qu'ils vont perdre cette fois, on ne sait pas.
On verra.
Bon, on rappelle quand même la précision, la défaite, c'était contre Lyon,
contre Lyon,
c'est ça.
Contre Lyon en championnat, ouais. Il y a 2 semaines maintenant.
Et il faut bien le dire, tout le monde était très content de voir Paris perdre pour la première fois de la saison. Merci beaucoup, Florent, de nous avoir présenté le sommaire de Ta Gueule Coubertin que vous retrouvez dans 5 minutes. Merci beaucoup, Léonie,
d'être venu. Cool.
Merci beaucoup, Chris, d'être venu aussi. Comme d'habitude, le mercredi, on remercie Isabelle qui était à la réalisation de l'émission et Mathieu pour son reportage. Et je précise que la programmation est également faite par les ambassadeurs et ça fait du bien aussi d'entendre ce qui se passe ailleurs. Allez, moi je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence pour un nouveau sous-marin.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.